France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, les vies de Galilée. Galilée ne fut pas seulement un physicien génial, célèbre pour avoir révolutionné la façon de regarder les planètes et de considérer la nature des lois physiques. Il fut aussi père de famille, ingénieur, inventeur, homme d'affaires et même acteur politique en relation avec toutes sortes de personnages plus ou moins puissants, certains religieux, d'autres non. Mais comment, au cours de sa longue existence, ces divers rôles s'imbriquèrent-ils ? Et comment cet homme aux multiples talents a-t-il pu être condamné par le Saint-Office en juin 1633, alors même qu'il bénéficiait de nombreux appuis ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Yves Gingras. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université du Québec à Montréal et directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies. Vous avez publié de nombreux ouvrages d'histoire et de sociologie des sciences et vous venez de faire paraître aux belles lettres un livre intitulé « L'ambassadeur de Galilée » que vous avez coécrit avec un grand spécialiste qui est William Shea. Shea, ça s'écrit S-H-E-A. Et ma première question est la suivante. Il y a de multiples biographies de Galilée. Pourquoi une de plus?
Oui, effectivement, et vous avez raison de poser la question, et notre réponse, c'est de dire que ce qu'on offre, c'est une expérience historiographique qui propose une histoire culturelle de Galilée qui nous montre derrière la scène. On est habitué de lire des biographies de Galilée qui vont nous dire, bon, il a découvert la loi de la chute des corps, il a fait le compas géométrique, il y a eu des querelles avec les jésuites, mais tout ça est abstrait. On oublie que pour que ça se fasse, les idées ne circulent pas dans le ciel, dans les nuages, les idées circulent à travers des réseaux. Bien sûr, ici, on s'est dit, il faut donc décrire le réseau que Galilée a mobilisé. Parce que c'est pas un hasard que lorsqu'il est professeur à Padoue, et c'est là qu'il fait ses découvertes, il décide de négocier son retour à Florence avec le secrétaire du grand-duc de Toscane en disant, si vous me nommez premier mathématicien et philosophe, je vais donc faire plein de découvertes pour vous, de nombreuses inventions secrètes que je garde pour vous, et je vais nommer, en votre honneur, les planètes médicéennes. Donc, c'est un négociateur, et il dit...
Presque un marchand?
Oui, oui, parce qu'il dit, j'accepte que mon salaire demeure le même, parce qu'il avait été doublé, son salaire à Padoue, mais il s'est aperçu, en lisant le contrat, qu'il ne bougerait plus pour le restant de sa vie. Fait qu'il dit, OK, vous avez doublé mon salaire, mais au fond, c'est pas un bon deal. Donc, il abandonne ce contrat avec l'Université de Padoue et négocie en secret avec le secrétaire du grand-duc. Et donc, il est nommé finalement, on le sait, donc à l'automne 1610, il s'en va à Florence et il devient premier mathématicien et philosophe du grand-duc de Toscane. Donc, c'est vraiment un négociateur et c'est ça qu'on met de l'avant. Et l'idée m'est venue de dire... Pourquoi ne pas l'écrire à travers les yeux de l'ambassadeur Francesco Nicolini, qui était donc ambassadeur du grand-duc de Toscane à Rome, de 1621 à 1644, donc la période cruciale où Galilée va donc écrire son fameux dialogue sur les deux grands systèmes du monde, va se rendre à Rome pour négocier le contenu avec le censeur en chef, qui est Rodolfo Riccardi, qui s'adonne, et c'est extraordinaire sur le plan culturel et on a tendance à l'oublier, c'est que Riccardi, c'est le neveu de la femme de l'ambassadeur Francesco Nicolini. Donc, en écrivant le tout comme des mémoires fictifs, mais fondés sur toutes les lettres que Nicolini, comme ambassadeur, envoie à chaque semaine au grand-duc pour lui dire ce qui s'est passé à Rome, parce qu'il faut rappeler qu'on est en pleine guerre de 30 ans, et que donc le pape, l'Espagne...
Sauf qu'à l'époque, les gens ne disaient pas « on est pendant la guerre de 30 ans ».
Exactement.
Ils ne savaient pas qu'elle allait durer 30 ans.
Au jeu, et d'ailleurs, j'ai passé des semaines dans le dictionnaire Furetière pour s'assurer qu'il n'y a aucun mot, aucune notion, exemple, la notion de réseau. C'est moi, comme sociologue, qui est frappé par le fait que Galilée mobilise le réseau des ambassadeurs. Il demande au secrétaire de dire à l'ambassadeur d'Espagne de dire au roi qu'il a trouvé une solution à la longitude. Donc, il se sert beaucoup du réseau. Parce qu'il n'a pas envoyé son livre directement à Kepler. Il a envoyé son livre au grand-duc, qui, lui, l'a fait envoyer par les ambassades à l'ambassadeur du grand-duc qui est à Prague.
Et donc, votre livre, Viengras, s'appelle « L'ambassadeur de Galilée ». Donc, l'idée, c'est de recueillir toutes les lettres écrites par cet ambassadeur à propos de Galilée. Il y en a d'innombrables.
Oui.
Et à partir de là, de faire ce qu'on pourrait appeler une biographie culturelle de Galilée.
Oui, à travers ses yeux de ce que lui a vécu et qu'il raconte, effectivement. Donc, le livre cite énormément les lettres ou les paraphrases. Et d'ailleurs, donne les sources pour qu'on voit bien que ce soit un récit à la première personne, par exemple dans le la vie au lecteur, et donc c'est écrit comme des mémoires écrites entre 1648 et 1600.
C'est les mémoires de l'ambassadeur.
49.
Il est vraiment ambassadeur et en même temps il est ambassadeur de Galilée puisqu'il le défend en beaucoup d'occasions.
Exactement, il le défend parce que comme il est le premier philosophe du grand-duc, attaquer Galilée, c'est mettre en cause l'image du grand-duc. Donc, lui, comme ambassadeur, il essaie de dire au pape, là, on voit immédiatement, disons, en 1633, mais il fait plein de choses entre-temps, mais en 1633, il dit, écoutez, vous pouvez pas vraiment condamner Galilée, parce que ça serait une offense au grand-duc. Et toutes ces négociations-là sont très longues, et on les décrit en détail dans le livre, alors que dans la plupart des biographies, on dit, oui, Galilée est condamné par l'Inquisition. Ça prend deux lignes. Nous, ça prend 30 pages.
Mais alors, comment vous avez travaillé? Combien il y a de lettres? Combien est-ce que Galilée a écrit de lettres au cours de sa vie? Est-ce qu'on le sait?
Bonne. Mais oui, on le sait parce que sont toutes dans les œuvres complètes de Galilée qui ont été éditées au début du 20e siècle par Antonio Favaro. Mais là, vous me posez une colle parce que j'ignore. Il y en a des milliers de lettres. Mais dans la correspondance, il y a aussi les réponses. Donc, est-ce qu'on divise en deux? Il y a sûrement 500-600 lettres. Et on voit le numéro des lettres dans les notes. Donc, on peut voir si c'est la lettre 1150, si on divise par deux, on a peut-être environ le nombre de lettres de Galilée. On a un très grand nombre de lettres, donc, de l'ambassadeur lui-même. Et ça, c'est intéressant.
Ça, c'est votre matériau de base.
Exactement.
À partir duquel vous allez écrire une sorte de... C'est pas vraiment une fiction, parce que tout est avéré.
Tout est avéré.
Mais c'est lui qui parle de façon que vous avez mise en scène.
Exactement. On le met en scène. Donc, le jeu littéraire, je vais donner un exemple, c'est qu'on imagine des circonstances qui sont plausibles. Exemple, en 1629, le philosophe astrologue Campanella est à Rome. Et donc, lorsque le dialogue est paru en 1632, Campanella dit « c'est génial, Simplicio, c'est le bouffon de ce livre qui est très drôle ». Et là, on imagine, ce qui est plausible, que l'ambassadeur a parlé avec Campanella qui lui dit ça. Mais cette phrase-là qu'on lui met dans la bouche, et c'est une lettre de Campanella à Galilée lui-même. Voyez-vous, donc on utilise les lettres aussi pour créer non pas des dialogues, c'est vraiment un récit à la première personne, et tout est plausible. Par exemple, lorsque le pape s'emporte, l'ambassadeur dit « OK, là, il faut changer de stratégie, il faut cesser de parler au pape, il est trop remonté contre Galilée, il faut qu'on parle plutôt à son neveu, qui est beaucoup plus ami de Galilée, qui est plus calme, qui va peut-être réussir à convaincre le pape de se calmer ». Et vous?
Alors, comment est-ce que vous avez travaillé avec votre co-auteur William Shee? C'est lui qui s'est occupé des lettres.
Oui.
Et vous, de l'écriture de la... qui avait parlé au nom de cet ambassadeur?
Giovanni Gamba. Exactement. Et le point de départ, si je peux me permettre, c'est lorsque j'ai terminé d'écrire le livre L'impossible dialogue, qui est paru au PUF en voilà, une dizaine d'années, j'ai consacré un chapitre complet à Galilée. Bien sûr, à la condamnation de Galilée sur les rapports entre science et religion. J'ai été frappé par le fait qu'il y avait de très nombreuses lettres de l'ambassadeur, mais que les historiens ne problématisent pas. Ils les citent de temps en temps, mais j'ai dit là, il y a tout un corpus, et la façon naturelle de traiter ce corpus, c'est de l'écrire au jeu. Et donc là, j'ai contacté mon ami Bill Shee, qui est une renommée mondiale sur Galilée, et je lui ai dit, est-ce que je me trompe en pensant que ce serait original, une histoire culturelle écrite à travers les yeux de l'ambassadeur? Il dit non, il dit, c'est une très bonne idée. J'ai dit, OK, on fait un deal, tu me traduis toutes les lettres, je fais la première version, parce que j'ai le plan dans ma tête là, de toute la stratégie d'écriture, tu révises, tu rajoutes, donc c'est vraiment une collaboration, et à la fin, bien sûr, on a donc ce récit qui inclut donc un certain nombre de thèses que je pense qu'on peut déduire. Par exemple, il y a une section qui s'appelle « Conjecture » où l'ambassadeur se demande pour quelle raison le pape s'intéressait autant à l'astronomie. Bien, c'est parce qu'il s'intéressait beaucoup à l'astrologie. Et comme dans sa carte astrale, il y avait des éclipses, il avait peur de mourir pendant les éclipses.
L'éclipse était annonciatrice de sa propre mort.
Exactement. En mai 1630, ce qui a amené les Espagnols à faire circuler la rumeur que le pape mourrait. Et donc, voyez-vous, là, on a tout un aspect culturel, parce que le pape fait sortir Campanella de prison à Sienne et l'amène dans les prisons de Rome pour le convaincre de faire des actions, des cérémonies qui vont peut-être annuler la mort du pape. Voyez-vous, c'est des choses qu'on n'a pas assez décrites. Et une chose qu'on n'a pas jamais décrite, c'est qu'à Rome, existe ce qu'on appelle les avisi. Les avisi, c'est le genre de feuilles de chou qui circulent sur les rumeurs à Rome. Tous les ambassadeurs lisent ça et eux disent, on sait que le pape a sorti Campanella de prison pour lui faire faire des manœuvres astrologiques, pour annuler sa mort. Voyez-vous, c'est tout écrit. Et donc, ils sont très ironiques et disent, le pape a interdit d'analyser les cartes astrologiques des papes, donc pour que lui seul puisse faire de l'astrologie. Donc, il y a beaucoup d'ironie de l'époque qu'on retrouve lorsqu'on prend comme angle le derrière la scène de la science et non pas d'écrire pour la 15e fois les thèses de Galilée sur les marées.
Alors, avant de parler de Galilée lui-même, Yves Gingras, parlons de ce Francesco Niccolini, ambassadeur de 1621 à 1644, vous l'avez dit, qui est lui-même fils d'ambassadeur.
Oui, ça c'est très intéressant parce que quand j'ai eu le début du travail, j'ai dit, bon, comme il est ambassadeur de 1621 à 1644, et comme ce sont des mémoires, je vais faire débuter le livre, j'arrive bien. Mais en faisant la recherche, je découvre, du moins au sens que moi j'étais pas au courant que c'était lui, je découvre que l'ambassadeur en 1611, lors du voyage grandiose de Galilée à Rome, qui annonce
ses grands découvertes. Il est reçu triomphalement.
Triomphal, il est reçu par les jésuites, il est triomphal. L'ambassadeur qui l'accueille dans le palais de l'ambassade, c'est le père de Francesco Niccolini. Donc, je me suis dit, c'est Giovanni Niccolini, et son fils est là. Donc, j'ai dit, là, il y a un contexte où, et c'est vrai d'ailleurs, Galilée va connaître Francesco alors qu'il avait 27 ans, en 1611. Ce qui me permet d'écrire ensuite, de dire, bon, j'ai connu Galilée, et donc il peut décrire le voyage de Galilée en 1611, qui est le voyage triomphal. Et en mai 1611, son père prend sa retraite et retourne à Florence. Mais il meurt en juillet. Donc Galilée lui écrit en disant, bon, j'ai appris la mort de votre père, c'est un ami, mes condoléances. Et là, ça permet donc de conclure le chapitre en disant, j'ai écrit donc à Galilée pour le remercier. Et là, il dit, mais je n'imaginais pas le revoir 20 ans plus tard, moi comme ambassadeur et lui comme accusé d'hérésie. C'est là qu'un petit jeu littéraire, qu'une histoire à la troisième personne ne permettrait pas. Mais ça reste dans le plausible. Et on cite la lettre que l'ambassadeur a écrite à Galilée.
J'ai appris en vous lisant Yves Gingras qu'à l'époque, on s'offrait des poires en cadeau.
Oui, effectivement, ça c'est très
vous intéressant. Vous écrivez... Le grand-duc fit parvenir à mon père, c'est l'ambassadeur qui parle, des prunes pour qu'il puisse les remettre aux cardinaux malades ou à ceux qui y trouveraient le plus de plaisir. Il lui indiqua aussi d'en donner une boîte à chacun des cardinaux et quelques mois plus tard, le grand-duc lui fit parvenir 50 belles poires à remettre le plus tôt possible au cardinal Borghese en indiquant que c'était un cadeau de la part de son Altesse. Oui. Pourquoi est-ce que la poire était si symbolique?
Et c'est intéressant parce que Galilée aussi aimait les poires. Et d'ailleurs, il y a un autre livre que je me permets de mentionner de mon ami Bill, qui est paru aux Belles Lettres il y a quelques années, qui s'appelle « Ce que Milton a dit à Galilée ». Donc, il a imaginé, parce qu'on sait que Milton, vers 1638-1639, a fait une visite à Galilée, donc le grand poète britannique. Et donc, il a imaginé un dialogue et il l'a fait terminer en disant à Milton, qui quitte sa villa de Arcetri, ramasser quelques poires, elles sont à point. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le travail de l'ambassadeur, c'est de garder des liens sociaux avec tous les cardinaux. Parce que c'est eux qui vont être du côté de la Toscane et donc amis du grand-duc. Donc, c'est d'où on a fait un chapitre où l'ambassadeur explique son travail.
La poire est un instrument diplomatique.
Et bien, la poire est aussi, si vous avez bien regardé, le vin.
Hein? Le vin, les c'est cardinaux, plus connu.
Et ça, c'est Galilée qui reçoit, qui donne aussi des... et qui échange beaucoup avec l'archevêque Piccolomini, qui va l'accueillir au mois de juillet 1633. Et ensuite, ils ont des échanges de lettres où ils parlent du vin qu'ils doivent s'échanger, le vin blanc et le vin rouge, etc. Donc, ce côté humain, c'est le côté du humain histoire culturelle qu'on a tendance à oublier. On fait un Galilée désincarné qui ne fait que de la science.
Comment est-ce que Galilée apprend l'existence de la lunette qui va pointer vers différentes planètes?
Ici, on reprend...
Parce qu'on le présente souvent comme l'inventeur, en fait, il ne l'a pas inventé.
Ah non, effectivement.
Il l'a perfectionné, mais il l'a
pas
inventé.
Mais ça, c'est intéressant, parce qu'il présente au doge de Venise, parce qu'il est à l'époque, en 1609, il est professeur à l'université de Padoue, et effectivement, comme il l'améliore, mais il dit au doge qu'il l'offre un peu comme un cadeau qu'il a inventé lui-même. Donc, Galilée pousse le bouchon pour augmenter son salaire. C'est là qu'on double son salaire de professeur.
Donc, en fait, il en apprend l'existence à Venise lors d'un voyage.
Bien sûr. Et là, il se met à jouer avec
des lentilles.
Et donc, il l'améliore. Et c'est lui qui fait ses propres télescopes. Et d'ailleurs, il montre très bien que lorsqu'une demande de la plupart des princes qui dit « Envoyez-moi un de vos télescopes », lui répond au secrétaire du grand-duc « Écoutez, je ne veux pas dévoiler mon secret de fabrication. Donc, c'est moi qui l'ai fait. » Et donc, il a toujours peur de perdre le contrôle parce qu'il veut toujours monétiser, si on le dit en termes actuels, ses découvertes.
Alors, l'histoire, on la connaît pour la suite. Hein. Durant quelques nuits claires qu'il passe à blanche, mais qu'elles fussent noires, Galilée pointe sa lunette sur différentes planètes. Il découvre le caractère accidenté de la surface de la Lune. Il découvre les satellites de Jupiter, les phases de Vénus, et c'est ces découvertes qui seront ensuite validées par Kepler. Mais ça suffit pas parce que Kepler, c'est un luthérien.
Effectivement.
Donc c'est un hérétique.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on voit jamais Galilée parler de Kepler. Il y a très peu de lettres. Il y a une lettre de Kepler lorsque Kepler fait paraître son livre sur le mystère cosmographique, hein, le Mysterium Cosmographicum. Il y en a pas une copie à Galilée, mais Galilée reste loin de lui parce qu'il trouve que Kepler est un mystique, parce que Kepler croit à une force d'attraction de la Lune et de la Terre que Galilée, comme ingénieur, parce que je pense que pour comprendre la mentalité de Galilée, c'est pas un philosophe, c'est un ingénieur.
Mais il tient à se rappeler philosophe.
Oui, mais ça, on va voir pourquoi, mais c'est un ingénieur. D'ailleurs, son premier travail, c'est la mise au point d'un compas géométrique qui donne d'ailleurs au fils du grand-duc qui ensuite va devenir le grand-duc. Et donc, comme c'est son ami, c'est pour ça qu'en 1610, il dit, écoutez, c'est extraordinaire. Je vais donc être capable de devenir philosophe et mathématicien. Et il insiste sur le poste de philosophe parce qu'il sait qu'il va devoir discuter avec les philosophes aristotéliciens. Donc, s'il s'appelle uniquement mathématicien du grand-duc, il n'y a pas la légitimité. Et il va même jusqu'à dire dans la lettre que l'ambassadeur cite, parce que l'ambassadeur avait accès aux lettres, et il va même jusqu'à dire une phrase qui est un peu drôle, en disant « J'ai fait, au fond, plus d'heures de philosophie que de mathématiques. » On a un peu de difficulté à le croire.
Je voudrais qu'on parle un peu d'anagramme, Yves Gingras, parce que d'abord, Francesco Niccolini, qui était catholique,
bien sûr,
il a pour anagramme... C'est bizarre. Calife non circoncis. Ça vous inspire quoi?
Rien, parce que je pense que les anagrammes, c'est vraiment...
C'est du hasard.
Le hasard.
Mais,
des
pense que vous connaissez un livre de Fernand Alline qui s'appelle « Les structures rhétoriques de la science de Kepler à Maxwell ».
Oui, oui, oui.
Dans lequel il explique que Galilée, qui n'était pas sûr de lui, envoyait ses découvertes, parce qu'il pensait être des découvertes, à d'autres astronomes sous forme d'anagrammes.
Bien sûr, mais...
Notamment à Kepler.
Mais
et par exemple...
C'est pas en raison du fait qu'à mon avis, il était insécure, c'est qu'il voulait assurer sa priorité. On trouve la même chose à l'Académie des sciences au 17e.
La paternité, la découverte.
Exactement. Ouais.
Alors par exemple, il écrit à Kepler, cette phrase en latin que je traduis en français, « J'ai observé que la planète la plus haute est trijumelle. » Dans cette planète, c'est Saturne. Et en fait, il voit les anneaux de Saturne, mais la résolution est telle qu'il a l'impression que c'est trois planètes qui cohabitent.
Ouais.
Et Kepler traduit, et simplement, il ne traduit pas de la bonne façon, parce qu'il y a plusieurs traductions possibles de l'anagramme, de la phrase, et il traduit en latin, je traduis en français, « Salut, double protection du bouclier, engeance de Mars ». Donc il prédit qu'il y a deux satellites à Mars. Et à l'époque, on ne le sait pas.
Bien sûr.
Mais ça sera démontré au 19e siècle.
Phobos et Deimos.
Donc sa mauvaise traduction correspond quand même à une vérité astronomique. Et puis pour les phases de Vénus, Il écrit, je parle de Galilée, traduit en français, « La mère des amours, dont Vénus, imite les figures de Sinti, la lune, les phases de Vénus. »
Exactement.
Et comment Kepler traduit-il cette phrase ?« Car Jupiter, hélas, témoigne-t-on, tourne maculé d'une tache rousse. »
La grande tache
de Jupiter qui sera découverte après. Donc la mauvaise traduction est une vérité astronomique. C'est quand même incroyable, même si c'est que du hasard.
Oui, mais ça c'est intéressant parce que ça nous amène à réfléchir. J'ai déjà fait un texte sur ça il y a plusieurs années. Qu'est-ce qu'une vraie découverte? Quelqu'un qui observe une chose mais qui ne la note pas. Par exemple, vous savez, quand on a découvert le positron, on est ensuite allé rechercher d'anciennes photographies où on a vu des positrons. Ils étaient là, mais personne ne les avait vus correctement. Fait que ça, c'est un peu la même chose. Il nomme une chose qui va être découverte après.
Mais quand Kepler vient confirmer les découvertes de Galilée, il écrit avec un style très très particulier.
Oui, ça c'est très intéressant.
Il dit « La vérité est fille du temps, et je n'ai pas honte de lui servir de sage-femme pour prouver ainsi que le jugement sur le fœtus n'était pas vain, et pour délivrer les autres de leur inquiétude quant à l'issue de la gestation. »
Oui, ça, c'est incroyable. C'est excellent. D'ailleurs, ça fait dire à l'ambassadeur que je le cite dans la copie de mon père, parce que c'est tellement bien écrit, et il file la métaphore de façon brillante. Et là, il dit « Ceux qui ne croient pas Galilée, il est très bon sociologue aussi, Kepler, parce qu'il dit « Si vous ne croyez pas Galilée, c'est pas crédible, parce que si Galilée mentait, il perdrait son poste auprès du grand-duc. Donc, il n'y a pas intérêt à mentir. Donc, on doit le croire. »
En tout cas, Galilée, après ses annonces et découvertes, devient célèbre dans toute l'Europe et même ailleurs. Il reçoit une lettre de Marie de Médicis, un mois après la mort d'Henri IV. Et Marie de Médicis lui demande de nommer par le nom de son ex-mari, son défunt mari, la prochaine étoile qu'il découvre.
Exactement. Donc, il devient très célèbre. Et ça nous permet de rappeler contre un mythe. Vous savez, on dit souvent que, bon, Galilée est incompris, les jésuites n'acceptent pas leurs choses. Non, en trois mois, parce que quand Galilée est nommé auprès du grand-duc, immédiatement, en 1610, il dit « Je dois aller à Rome au plus vite », parce qu'il sait qu'il a besoin de l'appui du père Clavius, qui est l'astronome du Collegio Romano. Et quand il arrive là et il discute avec le père Clavius, au bout de deux, trois semaines, le père Clavius écrit une lettre officielle au cardinal Bellarmine qui lui avait dit « C'est quoi ça? Est-ce que c'est une rumeur ou c'est vrai? » Il dit « Oui, tout est vrai. Excepté ma position sur la Lune, alors que Galilée dit que la Lune a des monts et des vallées et qui mesure la hauteur des montagnes. »
Il dit qu'elle est terreuse, qu'elle est comme la Terre.
Exactement, comme la Terre. Le père Clavius dit que là, il n'est pas convaincu parce qu'il croit que c'est simplement une différence de densité de la Lune qui font que ça donne l'impression, par la réflexion, d'être des montagnes. Donc, c'est la seule chose, mais pour le reste, il dit oui, il y a des satellites de Jupiter, il y a des phases de Vénus, ce qui va bien sûr imposer non pas le système de Copernic, mais le système de Riccioli ou de Tycho Brahe.
Alors, on apprend en vous lisant que Galilée a eu plusieurs enfants, il a eu deux filles.
Oui, il y a deux filles et un garçon.
Un garçon, les deux filles ont été mises au couvent, dans deux couvents séparés?
Dans un couvent, parce que les règles de l'époque voulaient qu'il était interdit de mettre ces deux filles dans un même couvent, parce que je pense qu'on ne voulait pas qu'il y ait des relations de famille. Et donc, lui demande à ses appuis, dont le fameux cardinal Del Monte, de négocier une exception pour ses deux filles, parce qu'il veut qu'elles demeurent tous les deux près de chez lui.
Ah, et dans le même couvent, contrairement à ce qu'un pleure.
Contrairement à une règle. Donc, c'est une exception qu'il a eu grâce à son appui du cardinal Del Monte, qui était aussi le protecteur du fameux peintre Caravage, qui était vraiment un mal élevé, mais qui était un peintre tellement sublime que le cardinal Del Monte le protégeait, comme il l'a protégé tout le long Galilée. Et en 1616, quand on met finalement à l'index le livre de Copernic, il y a plein de rumeurs qui disent que c'est Galilée qui est condamné. Donc, il demande au cardinal Del Monte d'écrire au grand-duc, parce que lui a peur de perdre son emploi, on comprend. Et donc, le cardinal Del Monte dit, Galilée quitte Rome, il revient à Florence sans aucun problème, il a convaincu les gens, et lui dit, la condamnation de Copernic n'a rien à voir avec moi. Fait que voyez-vous, là aussi, il joue sur les deux tableaux, parce que c'est lui qui est allé à Rome défendre Copernic, à tel point que plus tard, Kepler lui-même dit, au fond, si Copernic a été mis à l'index, c'est la faute de Galilée.
Mais on a pu lire Copernic sans avoir aucun ennui pendant des décennies.
Exactement, c'est ce qui fait dire à Kepler qu'au fond, c'est la faute de Galilée. S'il n'y avait pas triomphé et hurlé en italien que oui, c'est le système de Copernic, ils ont le lisait depuis 1543 parce que c'est en latin, donc très peu de lecteurs, des astrologues, des médecins, puis des astronomes, c'est les seuls.
Mais il a simplement dit que quand vous lisez Copernic, vous lisez quelque chose de vrai.
Exact. Oh, oui.
C'est ça qui a créé le problème.
Oui, et donc, mais aussi, c'est pas uniquement ça, c'est le fait que c'est diffusé. Autrement dit, Rome dit, écoutez, là, si vous laissez le peuple tranquille et vous mettez pas en cause publiquement la cosmologie, on peut endurer parce que on peut faire semblant que c'est hypothétique. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui dit dans son livre, hein, son grand livre, qui s'appelle « Les deux grands systèmes du monde ». C'est pas le titre original de Galilée. C'est Rome qui lui dit de changer de titre.
Alors, dans la quatrième de couverture de votre livre, Yves Ingrat, il est indiqué que Galilée a été Marie. Oh ben, c'est faux.
Ah ben ça, voyez-vous, c'est la seule chose que j'ai pas relue, la quatrième de couverture. Il est pas Marie, ça va être corrigé si j'ai la chance qu'on le réimprime.
Il a été père, mais pas Marie.
Effectivement, il est père de trois enfants, mais ça a amené peut-être ceux qui ont écrit la quatrième à dire « si t'as des enfants, c'est que t'es marié ». Ce qui était plausible d'ailleurs, parce qu'on est au 17e siècle quand même. Hein.
Et alors, c'était fréquent qu'il y ait des...
Je connais pas la fréquence, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle était de souche roturière, et lorsqu'il quitte Padoue pour Florence, il ne l'amène pas avec lui, parce que là, lui est rendu à la cour, et bien sûr, la cour ne peut pas permettre. Et ce qui est très intéressant, puis là, on voit le côté qu'on appelle aujourd'hui genré, c'est qu'alors qu'il met ses deux filles non mariables, parce qu'elles sont...
Au couvent.
Elles sont au couvent parce qu'elles sont non mariables, il n'y aura même pas une dot pour les convaincre d'être mariées, son garçon va être reconnu par le grand-duc, parce que lui aussi est bâtard, au fond. Mais les deux filles finissent au couvent, comme non mariable, alors que lui, comme c'est un homme, il est reconnu et donc il a une dignité et il obtient un poste.
Mais quand on vous écoute, Yves Ingrat, surtout quand on vous lit, on a l'impression que Galilée, qui a essayé d'être diplomate dans beaucoup de secteurs et en beaucoup d'occasions, en fait, n'était pas un très grand diplomate. Il n'avait pas beaucoup de tact.
Non,
il mettait les pieds dans le plat dans beaucoup de sujets et il donnait des verges pour se faire battre.
Oui, parce qu'il était convaincu. Et il y a une chose sur laquelle on a insisté dans le livre, et on revient à trois occasions pour montrer l'obsession de Galilée, c'est que dès 1611-1612, Galilée a l'idée que grâce aux satellites de Jupiter, c'est une horloge, les satellites de Jupiter. Ils tournent autour de Jupiter, et donc il fait une table, et dit donc que ça solutionne la question de la longitude. Et comme tous les grands princes d'Espagne surtout, et du Portugal et du Pays-Bas, avaient offert des milliers de couronnes à la personne qui trouverait la solution de la longitude, parce que pour aller en mer et se rendre en Inde, il faut connaître la longitude, sinon c'est très dangereux. Et lui est obsédé, et dit, j'ai trouvé la solution, et dit au grand-duc, dites à votre ambassade de vendre ma solution. Donc on a plein d'échanges, mais à chaque fois c'est un échec. Fait qu'il tente avec l'Espagne, c'est abandonné, il revient avec l'Espagne, et à la fin il l'offre même à la France. Voyez-vous, il est complètement obsédé, mais tous les comités de marins disent, mais ta solution, elle est inopérable. On peut pas observer les satellites de Jupiter sur un bateau.
Surtout quand la mer est agitée.
Oui, et donc, non, il dit, j'ai une solution. Fait qu'il met un bateau dans un bateau dans un bateau, en disant que le petit bateau dans le grand bateau, l'onde qui fait qu'il bouge va se compenser, et le petit bateau dans le petit bateau va être calme comme la mer. Ce qui
mais
est
surtout
un peu exagéré.
L'objection qu'on lui fait le plus souvent est la suivante. Certaines personnes ne voient pas pourquoi il faudrait utiliser un instrument inconfortable pour voir des corps invisibles, alors que nous pouvons en voir tant à l'œil nu.
Ben oui.
Ça l'énerve.
C'est gros bon sens.
Il réplique en disant « C'est une difficulté que j'ai résolue 6 mois après l'avoir entendue, et si je l'entendais aujourd'hui, je pourrais y répondre en 6 mots, car je n'aurais qu'à dire que ces corps invisibles se voient avec la lunette avec autant de facilité que nous voyons les corps les plus resplendissants que sont la lune et le soleil. Ces astres invisibles voisinent des étoiles que nous voyons à l'œil nu, de sorte qu'ayant trouvé celle-ci, les autres se trouvent facilement. » Je suis sûr que je pourrais répondre à toute autre difficulté.
Ouais.
Donc il comprend pas pourquoi on objecte à sa découverte des arguments techniques.
Et là, c'est là qu'au fond, il y a une différence entre... Lorsque les gens sont sur Terre, effectivement, là, ils peuvent déposer le télescope et avoir la longitude de la position. Mais le but de la de la recherche était d'avoir la position en mer et non pas sur Terre. Mais ça montre une chose, qu'un grand savant peut être obsédé et complètement aveugle à tous les arguments qu'on a sortis contre lui. Il y a même, les Pays-Bas ont fait un comité sur lequel il y avait Beekman. Beekman, c'est le mathématicien qui a formé Descartes. Et lui aussi dit, mais c'est impraticable sur un bateau. Il revient toujours à la charge. À un endroit, d'ailleurs, il négocie la bourse. Il dit, on m'avait dit que c'est 4 000 écus. Là, vous me dites que c'est 2 000. Il faudrait pas qu'on baisse en bas de 2 000. Fait que, voyez, il y a le côté négociateur. C'est pour ça qu'on a mis aussi souvent des longues lettres. Parce que ce que je reproche souvent aux livres d'histoire, c'est qu'on n'entend pas la voix de Galilée. On ne voit pas qu'il est fâché et qu'il dit « je vais mourir, il faut se dépêcher ». Donc, en citant la lettre au complet, comme vous venez de le faire, ça nous fait voir beaucoup mieux, je crois, le caractère assez sanguin de Galilée.
Mais il n'était sans doute pas un très grand diplomate, mais il était un très grand argumentateur.
Ah oui,
c'est ça. Il explique toujours, sans perdre trop patience.
Exactement. Et d'ailleurs, il y a une des lettres qu'on cite d'un des espions qui écrit à un ami cardinal pour le tenir au courant. Il dit « Ah, je vois Galilée qui se promène de maison en maison et qui non seulement réfute, mais développe même les contre-arguments avant de les réfuter. » Il dit « C'est extraordinaire. » Et donc,
Et par exemple, quand il est en visite à Rome en 1611, lors de cette fameuse visite triomphale, il montre que Aristote a tort quand il pense que la flottabilité d'un corps dépend de sa forme. Oui. Seule la densité compte.
Et ça, c'est intéressant.
Il arrive à convaincre le cardinal Barberini.
Oui, Maffeo Barberini, c'est comme ça qu'ils deviennent amis. Et ça, c'est assez
grand. Qui deviendra pape.
Qui va devenir pape en 1623. Et donc, ce que lui a appelé en 1623 une conjoncture extraordinaire, c'est ça qui l'amène à se dépêcher en 1624 pour aller voir le nouveau pape. Et lui, encore une fois, par son obsession, il comprend, dans ses rencontres multiples avec le pape, il rencontre le pape 6 fois, et il semble comprendre, à tort évidemment, que le pape lui dit, mais il n'y a pas de problème de discuter de Copernic, il n'y a pas l'index, parce qu'il faut rappeler que ce qui a été mis à l'index de Copernic, c'est jusqu'à correction. Donc, ils ont corrigé 4-5 pages de Copernic en 1620. Donc, après 1620, toutes les copies corrigées de Copernic sont en circulation. Donc, lui, il comprend qu'il peut parler de Copernic. Donc, il retourne à Florence en 1624 et se met à l'écriture du grand livre qu'il appelle « Du flux et du reflux de la mer ». Parce que lui, il est convaincu, encore une fois, que la cause physique, la preuve physique que la Terre tourne, c'est les marées. Bien sûr, immédiatement, les objections disent « ben, il y a 2 marées par jour, donc ton affaire, ça marche pas. »
Donc l'argument est scientifique, en l'occurrence.
Oui, parce qu'il y avait de très bons arguments scientifiques du côté des aristotéliciens quand même. C'était pas des crétins, c'était des professeurs jésuites à l'université. Mais Galilée restait convaincu. Donc pendant 5 ans, il dit, je vais faire mon livre et il va être publié à Rome parce que le cardinal Barberini, qui est maintenant le pape Urbain VIII, est un ami, et tellement un ami...
Qu'il admire
qu'en 1620, il dédie à Galilée une partie d'un poème dans lequel il le cite 2 fois. Galilée dit « Oh, c'est trop de bonté, c'est vraiment extraordinaire que vous, monsieur le cardinal Barberini... » Et donc, il est vraiment un véritable ami de Galilée. Sauf que Barberini, le futur Urbain VIII, c'est aussi un individu très imbu de lui-même. Il se pense un grand écrivain, un grand poète, et très soupe au lait. Et donc, l'ambassadeur qui le rencontre à chaque samedi se dit, ben là, il faut que je fasse attention parce que il parle, puis si on se met à dire qu'est-ce que vous pensez de Galilée, il s'emporte. Il dit, j'ai été trahi par mon ami, le Monseigneur Ciampoli, qui est son adjoint et qui est un grand ami de Galilée et qui est membre de l'Accademia del Cimento aussi, de l'Académie des Lincei. Et donc, j'ai été trahi aussi par Riccardi. Donc, il devient un peu, obsédé en disant que les amis de Galilée ont accepté que le livre des deux grands systèmes du monde soit paru, alors que les paroles du pape sont dans la phrase de Simplicio. Et bien sûr, Simplicio veut dire un esprit simpliste.
Mais qu'on confond avec le porte-parole du pape.
Exactement. Mais lui, Galilée répond, il dit bien non. Simplicio, c'est en l'honneur de Simplicius, le grand philosophe aristotélicien du VIe siècle, ce qui est vrai aussi.
Il est sincère ou pas?
Mais ambigu. on le saura jamais parce qu'il y a une double, il y a un double entente. Et je pense que le succès de Galilée, il faut rappeler, mais ça, c'est uniquement les Italiens qui peuvent l'apprécier, a une très belle plume. C'est un très bon écrivain en italien. Bien sûr, c'est perdu un peu le style de Galilée par les traductions anglaises et françaises, mais tout le monde s'entend qu'en italien, c'était percutant.
Mais alors, ce livre, le dialogue sur les deux systèmes du monde, au départ, il fait 1000 pages.
Oui.
Ça lui demande un travail énorme. Et Galilée raconte à l'ambassadeur qu'il s'est fait gronder par sa fille, sœur Marie-Céleste, celle qui est au couvent, enfin, oui. Une des deux qui sont au couvent, car elle trouvait, dit-il, qu'il travaillait trop et qu'à son âge avancé, cela risquait de raccourcir le nombre de jours qu'il lui restait à vivre. Et tout cela, avait-elle ajouté, dans le seul but d'immortaliser son nom. Elle lui reproche de vouloir devenir célèbre.
Exactement. Aussi, et aussi, à un autre endroit, elle lui reproche de trop boire de vin, et ce qui explique son arthrite, parce qu'il y a, beaucoup d'attaques d'arthrite Galilée, donc il est immobilisé pendant des semaines, et il demande toujours à marcher, parce qu'il veut prendre des grandes marches, il y a vraiment des problèmes d'articulation, et sa fille, qui est apothicaire dans le couvent, lui envoie des médicaments, et même lors de la grande peste, elle lui envoie toutes sortes de concoctions, et elle lui dit, prenez ça, mon cher père, ça va vous empêcher d'être soumis à la grande peste qui circule depuis...
Mais quand on vous écoute, il vient grave l'impression que si Galilée avait été plus prudent, disons, il n'aurait eu aucun ennui avec l'Église.
Oui.
Et est-ce que la peste a joué un rôle dans cette affaire? Autrement dit, comment est-ce qu'on est passé d'une situation où le pape, enfin, celui qui est Barberini, quand il est pas encore pape, est un bon ami de Galilée, ils s'admirent mutuellement, qu'est-ce qui va provoquer la catastrophe?
Ça, c'est une série de circonstances imprévues et indépendantes les unes des autres. La première qui est importante, c'est qu'en 1630, son grand appui, c'est le prince Cesi. C'est lui qui avait créé en 1603 l'Accademia dei Lincei. Et lorsque Galilée arrive à Rome en 1610, en 1611, il le nomme membre de l'Accademia dei Lincei. Et c'est lui, le prince Cesi, qui publie les ouvrages de Galilée. Et c'est lui qui négocie l'imprimatur, donc le cardinal Cesi, excusez, le prince Cesi, est habitué. Mais il meurt en 1630. Et lorsqu'il meurt, Galilée se dit, mais là, je dois donc moi-même trouver un imprimeur, payer un imprimeur en plus. Parce que là, maintenant, c'est Galilée qui doit payer pour son propre livre. Donc, non seulement il est dans le trouble, mais il n'y a plus d'appui à Rome. Parce que même son grand appui, qui est le cardinal Del Monte, est décédé aussi. Donc, tous ceux qui étaient autour de lui sont décédés. Fait que là, il est pris juste avec son habitude à lui. Il lui reste un ami qui est le responsable du Sacré Palais, qui est Rodolfo Riccardi. Mais Riccardi est obligé de faire attention. Il peut pas trop défendre Galilée, parce que s'il donne l'imprimatur au livre, il va se faire taper ses doigts, ce qui est arrivé d'ailleurs. Il va finir par donner l'imprimatur grâce à la pression de la femme de l'ambassadeur. Parce que quand Galilée voit que c'est bloqué, il écrit directement à la femme d'ambassadeur et dit, ma chère madame, c'est votre famille, il faut que vous convainquiez Riccardi de transporter le livre de Rome à Florence, parce que moi, je peux pas aller à Rome à cause de la peste. Donc, la cause ultime, parce qu'il est allé en 1630 négocier, et il a accepté de changer le titre. Il dit, OK, le titre, c'est le meilleur titre, mais OK, j'accepte. Donc, l'idée de l'ambassadeur, c'est de dire, lorsqu'on regarde tous les événements, on s'aperçoit que s'il n'y avait pas eu la peste, il serait retourné à Rome en 1631, et là, ils auraient lu ensemble la conclusion, et Riccardi lui aurait dit, enlève de la bouche de Simplicio l'argument du pape, parce que c'est pas une très bonne idée. Il aurait cédé, puisqu'il avait déjà cédé sur la chose la plus importante.
Il aurait demandé d'arrondir les angles.
Il aurait énormément arrondi les angles, et le livre serait paru sans problème. Donc, on peut dire qu'en dernière instance, la peste est la cause ultime de la condamnation de Galilée.
Parce qu'elle a empêché certains voyages.
Exactement.
Mais quand Galilée écrit « Dialogue sur les deux systèmes du monde », alors c'est évidemment Ptolémée et Copernic, est-ce qu'il prend vraiment parti explicitement, ou est-ce qu'il dit simplement « il y a deux systèmes différents, incompatibles l'un avec l'autre, mais je vous laisse juger, vous lecteurs ».
L'entente, c'est qu'il ne doit pas prendre parti. Et d'ailleurs, sur le titre, on dit toujours que le titre du livre, c'est « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde », mais on oublie qu'en 17e siècle, les titres sont très longs, et le vrai titre, c'est « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, sans que on prenne parti pour l'un ou pour l'autre. Donc, il a accepté de dire ça. Sauf que quand on lit attentivement les pages...
Le titre est mensonger.
Le titre est mensonger. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un comité de 3 experts, parce que le pape a dit, OK, j'ai fait un compromis, justement parce que j'aime bien le grand-duc. Et écoutez, j'ai fait une exception. J'aurais dû envoyer ça à l'Inquisition immédiatement. Mais par acquis du grand-duc, j'ai fait un comité scientifique. Et le comité dit, bien sûr, Galilée, sans l'ombre d'un doute, prend parti pour Copernic. Et donc, c'est là qu'il dit, bien là, j'ai pas le choix, je vais l'envoyer à l'Inquisition. Et donc, dans le livre, on a tous les mois, ça dure 3 mois d'attente dans les bureaux de l'ambassadeur, Galilée vit là, et l'ambassadeur rencontre le pape à chaque semaine en disant, oui, mais quand est-ce que ça va finir le procès? Et le pape lui répond, on peut pas le savoir. Tout ça est secret, et je peux rien vous dire. C'est la stratégie de l'Inquisition, et on peut pas remettre l'Inquisition en doute. Mais Galilée est tellement obsédé d'avoir raison, il dit, laissez-moi discuter, je vais vous convaincre que vous avez tort. Fait que là, l'ambassadeur écrit à Galilée, dit, écoutez, mon cher Galilée, vous comprenez pas, là. Il ne faut pas remettre en cause, c'est impossible. Vous devez accepter tout ce que l'Inquisition va vous dire, c'est la seule façon de vous sauver.
Alors que lui, il veut argumenter.
Oui. Et donc là,
c'est... Il veut même se mêler de théologie.
Bien sûr.
Que personne ne lui demande.
Non, mais d'où son obsession d'avoir raison. Et après, bien sûr, on peut dire que c'est lui qui avait raison, mais c'est anachronique. Parce que Galilée n'a pas plus de preuves.
Tous les arguments permettant de considérer que la Terre tourne autour du Soleil. Est-ce qu'il y avait encore des failles scientifiques dans l'argumentation? Est-ce que toutes les preuves étaient là?
Non, il y avait, c'est le contraire, il n'y avait aucune preuve. Il n'y avait aucune preuve que la Terre tourne, mais ce qu'il aurait dû répondre, c'est qu'il n'y avait aucune preuve qu'elle ne tourne pas non plus, voyez-vous. Sauf que la vision dominante depuis 2000 ans, c'est qu'elle tourne pas, parce que c'est le gros bon sens. Mais lui, il dit qu'elle tourne, mais par simplicité, mais c'est pas un argument. D'ailleurs, c'est uniquement un siècle après, donc en 1728, par Bradley, qu'on va démontrer par des observations astronomiques, parce que là, on a des télescopes suffisamment puissants, qu'effectivement, la Terre tourne autour du Soleil. Il faut attendre l'expérience de Foucault, un siècle plus tard, en 1850 environ, pour dire que la Terre elle-même tourne sur elle-même. Ce que Poincaré, d'ailleurs, a remis en cause lui-même. Donc, voyez-vous, le bon sens sur la rotation, il faut s'en méfier.
Alors, comment ça se passe ensuite? Quelles sont les oscillations qui font que le cas de Galilée va parfois paraître anodin, parfois gravissime? Il y a des auditions, il sort de là soulagé, il a l'impression d'avoir été compris. Et oui. Puis d'autres, où, au contraire, ça se passe plus mal.
Oui, mais d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que...
Il viendra.
Celui qui est responsable de la négociation aime bien Galilée, mais il voit que Galilée est en train de s'empêtrer. Donc, il demande, c'est Maculano, il dit au pape, écoutez, me permettez-vous, en dehors des procédures juridiques, de rencontrer Galilée pour lui faire entendre raison. Le pape dit, OK, c'est une bonne idée, parce que le pape aussi veut se sortir de cet imbroglio. Et donc, il rencontre en privé Galilée et il lui dit, écoutez, M. Galilée, cessez de nous dire que vous défendez pas Copernic. C'est évident dans le volume. Donc, dites plutôt que vous défendez Galilée. Fait que là, Galilée a une nouvelle rencontre, la troisième, où là, il compte une histoire. Il dit, ah, finalement, j'ai regardé mon livre et je me suis aperçu que, effectivement, ma plume a dépassé ma pensée. Fait que là, il commence à inventer une histoire rocambolesque pour s'excuser. Puis là, il termine en disant, mais si vous me laissez écrire une quatrième journée, je pourrais expliquer. L'autre dit, non, il n'y aura pas de quatrième journée, là. T'oublies ça, tu retournes en prison et on discutera après. Voyez-vous, il est obsédé qu'il peut convaincre ces gens-là.
Alors, qui était, il vient grâce de ce monsieur qui s'appelait Antonio Querengo, qui avait fait un commentaire élogieux de l'activité de Galilée à Rome, et puis qui a fait marche arrière et qui écrit au cardinal d'Est, les discussions du sieur Galilée sont parties en fumée d'alchimie. Le Saint-Office a déclaré que soutenir cette opinion s'écarte manifestement des dogmes infaillibles de l'Église. Nous sommes maintenant assurés de pouvoir rester immobiles, chacun à son poste, sans devoir nous envoler avec la Terre comme autant de fourmis sur un ballon qui s'envole.
Ouais, ça c'est très intéressant.
C'est quelle période ça?
Ça c'est 1616. C'est qu'en 1616, Galilée va à Rome parce qu'il dit... Il y a des rumeurs qui veulent qu'on condamne le livre de Copernic. Fait que lui, encore une fois convaincu, il s'en va à Rome en disant, moi, je vais vous convaincre de ne pas le condamner. Et là, ça nous montre bien l'ironie des gens autour du Galilée le prétentieux qui convainc tout le monde. Et lui, le Querengo, qui est un peu l'espion du cardinal d'Este, C'est le même qui, deux semaines avant, avait dit « Oh, Galilée triomphe dans les dans toutes les maisons ». Mais après le 4 mars, qui est la date où le décret sort, là, il dit « Pauvre Galilée », puis il est très ironique, puis c'est très bien écrit, hein. Voyez-vous, il y avait donc...
Oui, c'est un peu une girouette, quand même, hein.
Oui. Non, mais lui, c'est un espion, fait que c'est une girouette. Mais à cette époque, vous avez pas le choix, parce que vous devez être en cours. Donc, si vous voulez être le mignon d'un cardinal, vous devez suivre la tendance dominante. Au début, Galilée triomphe, on l'applaudit. Quand Galilée tombe, c'est ce qu'on appelle la chute du privilégié, là, du, en cours. Si vous êtes bien aimé, ben, on le voit avec Trump et Musk. Trump, c'est le roi. Musk était son mignon. Et le Musk, il l'a mis dehors.
Et Musk se venge.
Et Musk se venge. Parce que lui, il est aussi riche. Alors qu'au 17e siècle, ceux qui sont mis dehors n'ont pas le rapport de force que Musk a actuellement.
Éric Dingrac, qu'est-ce qui va provoquer la colère du pape, le fait qu'il va châtier ou contribuer à châtier celui qui était son ami, qu'il admirait?
C'est qu'il considère que, alors qu'il dit très bien, il dit à l'ambassadeur, Galilée sait très bien de quoi je parle, je lui ai expliqué plusieurs fois mon point de vue. Et donc, il m'a trahi. Et comme lui est soupe au lait, il n'admet pas ça. Il dit, ça a été un ami longtemps. Donc, il est convaincu qu'il est ridiculisé parce que l'argument de l'omnipuissance divine, parce que lui, il dit, écoutez, vous pouvez pas dire que la Terre tourne parce que vous limitez la puissance divine. Si Dieu peut tout faire, il peut faire qu'elle semble tourner, mais qu'elle ne tourne pas. Donc, vous pouvez pas intervenir là-dessus et vous devez mettre mon argument en conclusion. Mais il le met dans la bouche de Simplicio.
Mais est-ce que, dans l'argumentation du pape, il n'y a pas des choses qui sont complètement extérieures à l'affaire de Galilée? Par exemple, le fait qu'on lui reprochait de ne pas tenir l'Église catholique comme il aurait dû.
Oui.
Être un pape faible.
Là, on est, c'est le contexte. Effectivement, le contexte, c'est que l'Espagne fait énormément pression sur le pape, parce que même quand il a été élu en 1623, d'ailleurs, on a toute une section où l'ambassadeur parle du conclave. Voyez-vous le fameux film Le Conclave? Mais le conclave de 1623 était très intéressant, parce qu'il était au mois d'août 1623. Il faisait très, très, très chaud. Les papes étaient malades. D'ailleurs, il y en a 8 dans les semaines suivantes qui vont mourir de la peste qui circulait. OK? Donc, il était malade. Donc, l'Espagne était contre la nomination d'Urbain VIII, parce que lui, il avait été nonce à Paris. Et donc, c'est Henri IV qui avait donné le cardinalat à Barberini. Donc, les Espagnols disaient qu'il a été nonce à Paris, il va défendre les Français. Mais finalement, il y a des concoctions et on finit par le nommer. Et là, ils font pression sur lui et ils lancent la rumeur qu'il va mourir en 1630 parce qu'il va avoir une éclipse une éclipse de lune et une éclipse de soleil, donc deux éclipses. Et lui, Urbain VIII, considère le soleil comme très important. Et donc, on fait pression sur lui. Fait que là, il y a la contre-réforme. Donc là, il dit, voyez-vous, je suis ferme parce que je peux aussi condamner mon meilleur ami. Donc, c'est compliqué. Il y a plusieurs variables.
Oui, il y a la peur de la mort à cause de l'éclipse. Et puis, il y a le fait que son ami l'a trahi, et puis il y a les pressions extérieures que vous citez. Donc, il va être condamné.
Oui, il va être condamné.
Surveillé.
Et
il a quel âge? 68 ans?
70.
70?
En gros. Parce qu'il est né en 70, 72. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1642, lorsque Galilée meurt, l'ambassadeur va voir le pape. Et aussitôt, le pape lui dit, écoutez, monsieur l'ambassadeur, j'entends des rumeurs à l'effet que le grand-duc veut enterrer Galilée en grande pompe dans l'église Santa Croce. Il dit, c'est hors de question, c'est un hérétique. L'ambassadeur lui répond, je suis pas au courant de cette rumeur, je vais me renseigner et je vous reviens. Donc, il revient après quelques semaines, il dit, mais non, c'est une rumeur, il n'y a aucune chance que Galilée soit enterré en grande pompe. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que c'est uniquement en 1737, sous un nouveau pape, que le pape va permettre que les restes de Galilée soient déplacés, finalement, dans la grande église Santa Croce, où aujourd'hui, il est en face, avec un grand busque, en face de Machiavel.
Mais est-ce qu'il va être rendu plus célèbre par le procès, Galilée, au travers de l'Europe?
Ah oui, ça c'est...
Comment est-ce que sa mort sera célébrée ou pas?
Ah oui, ça c'est parfaitement clair. Puis il y a une phrase extraordinaire d'un des grands savant du 17e siècle qui s'occupe des correspondances, qui s'appelle Fabry de Peresque, Nicolas Fabry de Peresque, qui est un grand ami du neveu du pape, et qui lui écrit en 1633, « Si vous ne libérez pas Galilée, ça va devenir comme la mort de Socrate. Et tous les pays vont trouver ça scandaleux et c'est pas très bon pour l'Église catholique. Donc, le fait qu'il mentionne la mort de Socrate montre très bien qu'en 1633, Galilée était d'ailleurs, depuis 1611, bien sûr, le plus grand savant d'Europe, le plus adulé de l'Europe. Et il trouve que c'est une mauvaise idée de l'Église de ne pas le libérer. Mais il y en a qui pensent qu'il a finalement été libéré en décembre 1633 parce qu'il est retourné dans sa villa. Mais il était en arrêt à l'intérieur de la maison. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs lettres de Galilée qu'il signe lui-même de ma prison de Arcetri. Donc, dire qu'il n'était pas en prison, c'est un jeu de mots. Une prison, c'est un
lieu... En fait, il est en résidence surveillée.
C'est une résidence surveillée, mais lui-même l'appelait sa prison. Donc, il faut faire attention de ne pas être anachronique. Lui-même dit, dans plusieurs lettres, de ma prison de Arcetri. Il était emprisonné, mais dans...
Il en souffrait.
Une prison dorée, si on peut dire.
Il peut écrire, il peut travailler.
Oui, mais il relance. Publier. Et d'ailleurs, on explique bien en détail toute la stratégie qui fait que son deuxième livre sur les deux nouvelles sciences, il le fait sortir un peu ce qu'on appellera aujourd'hui en zamizdat, de façon...
Catimini.
Secrète, oui, en catimini. Et ça circule là aussi par des ambassadeurs, dont l'ambassadeur du duc de Noailles, ce qui explique la préface et la dédicace.
Mais qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre « Discours sur deux sciences nouvelles »
Ben justement, comme il était condamné, il a repris ses travaux du début du siècle et il a enfin publié en 1638 la fameuse loi du pendule, la loi de la chute des corps et aussi la deuxième science qui est la résistance des matériaux.
Alors quand il était en résidence à Arcetri, en 1640, il reçoit une lettre écrite par les fontainiers de Florence. À l'époque, il est déjà quasiment aveugle, j'imagine.
Oui, oui, il est aveugle depuis 1638.
Et c'est Torricelli, son assistant, qui lui lit la lettre et qui lui explique que les fontainiers remarquent que quand ils pompent l'eau de l'Arno, le fleuve qui coule à Florence, ils peuvent la monter sur 18 coudées, ça fait à peu près 10 mètres, mais au-delà, quelles que soient les méthodes qu'ils utilisent, ça coince, ça peut pas aller plus haut. Et c'est là que Galilée va se servir de cette information pour démontrer l'existence du vide. Pourquoi vous n'en parlez pas dans le livre?
Parce que l'ambassadeur explique au début que lui, il n'est qu'un juriste, qu'il ne connaît pas beaucoup les sciences. Donc, on se sert de ça pour insister sur le fait que c'est vraiment le point de vue de l'ambassadeur. Et d'ailleurs, quand il y a des controverses astronomiques, l'ambassadeur, il dit, là, je ne sais pas trop qui a raison, mais quand même, Kepler est contre la thèse de Galilée, donc c'est peut-être plausible. Donc, on voulait être vraiment précis dans le choix qu'on a fait de pas faire dire à l'ambassadeur des choses qu'il ne comprenait pas lui-même. Donc, on ne parle pas non plus de la loi de la chute des corps, on ne parle pas de la trajectoire parabolique. Ce sont des choses qui sont dans d'autres livres. Donc, ici, c'est vraiment de dire, vous avez une histoire culturelle qui vous fait voir l'arrière-scène de la science.
Alors, je vais pas poser ma question autrement, Yves Gingras. Vous, avant d'écrire ce livre, vous connaissiez déjà parfaitement la biographie de Galilée et ses travaux.
Oui.
Et peut-être ne connaissiez-vous pas toutes les lettres de l'ambassadeur.
Non.
Alors, qu'est-ce que vous avez appris dans ces lettres qui contredisent ce que vous croyez auparavant?
Ça fait plutôt mettre en contexte la complexité d'une histoire qu'on écrase en deux, trois mots. Par exemple, on dit Galilée condamné en 1633. Mais l'ambassadeur, pendant des semaines et des semaines, essaie de convaincre le pape de ne pas le condamner. Et il conclut en disant, on s'est trompé, on a été trop optimiste. Il dit, je comprends toujours pas pourquoi le pape a demandé aussi qu'il soit abjuré. Parce que l'ambassadeur savait que Galilée devait être condamné. Mais il dit, on va arranger ça pour que la condamnation soit pas trop grave. Et lorsqu'il voit qu'il doit abjurer, là, il dit, on a raté quelque chose. Et moi, comme ambassadeur, là, mes informations m'ont pas permis de prédire que le pire est arrivé, alors qu'il était encore optimiste de sauver Galilée.
Mais qu'est-ce qui fait que Galilée a échappé à la peine de mort?
Ah, c'est parce qu'il était le premier philosophe et mathématicien du Grand-Duc. Le pape dit d'ailleurs plusieurs fois à l'ambassadeur, écoutez, j'ai fait au contraire de mon mieux par respect du Grand-Duc. Parce qu'il faut aussi savoir qu'il a besoin de l'appui du Grand-Duc parce que comme c'est la guerre, il veut créer ce qu'il appelle une ligue catholique. Et lui, comme pape, ne veut pas le proposer et demande au Grand-Duc de Toscane de proposer une ligue catholique contre les Suédois et contre les protestants. Donc, il doit faire attention à son protégé, mais il a condamné un autre protégé, mais qui n'était pas dans la cour très grande du grand-duc. Et donc, la différence entre les deux montre qu'il a tenu compte de ce fait-là.
Mais dans un livre écrit par un historien italien dont j'ai oublié le nom, la question de l'atomisme semble avoir joué un rôle. Parce que Galilée croyait à l'existence de l'atome, l'existence de l'atome contredit le dogme de l'Eucharistie,
ouais.
Et ça pouvait être un motif de condamnation. Or, ça ne, d'après ce que j'ai lu dans votre livre, ça n'apparaît pas dans la correspondance du diplomate.
Non, ça c'est le fameux livre de Pietro Redon, dit Galilée hérétique, qui est fondé, même lui a abandonné cette thèse-là, parce que c'est une thèse qui est fondée sur un seul document, et en gros, c'est comme une pyramide qui est construite à l'envers. Vous partez d'un point, puis vous construisez un univers complètement complotiste, parce que les quatre entretiens sur Galilée portent tous sur le système solaire et ne portent aucune main sur l'atomisme. Okay? Et donc, il y a un problème avec l'atomisme. Effectivement, c'est ce qui explique que Descartes, ensuite, dit qu'il n'est pas atomiste, mais qu'il parle de corpuscule. Descartes utilise le mot corpuscule, bien que plusieurs lisent Descartes comme étant atomiste. Descartes répond, mais non, je suis pas atomiste. Parce que Descartes était conscient du problème de la transsubstantiation. Mais l'idée que Galilée est condamné pour son atomisme, il n'y a aucun historien aujourd'hui que je connaisse qui défend cette thèse et Redon lui-même l'a abandonné.
Est-ce que vous avez lu, Yves Ingrat, toutes les lettres de l'ambassadeur?
Oui, bien sûr.
Ou est-ce qu'il y en a encore qui sont cachées ici ou là, qui pourraient
non,
alimenter un peu plus l'histoire?
Et ce qui est intéressant qu'on dit, c'est que l'ambassadeur rappelle à la fin que quand lui écrit au grand-duc, les trois quarts de ses lettres portent sur autre chose. Donc, il y a quelques lignes sur Galilée, mais nous,
c'est un sujet parmi d'autres.
Exactement, parce que lui, comme ambassadeur, il y a autre chose à régler. D'ailleurs, en 1633, il se dit, en 1632, quand le livre sort, il dit, enfin, j'ai réussi à convaincre les deux, et c'est réglé. Et là, en juillet, août, le scandale repart, fait que là, il est un peu découragé, parce qu'il sait qu'il va redevoir négocier pour sauver Galilée.
J'ai une dernière question, Yves Ingrat. Galilée a fait plusieurs expériences de pensée dans sa vie, en posant des questions du type, qu'est-ce qui se passerait si... Qu'est-ce qui se passerait si les corps tombaient dans le vide? Qu'est-ce qui se passerait si on attachait une pierre assez lourde à une corde, ouais, à une pierre plus légère, on laissait tomber, ouais, etc. Alors nous faisons à notre tour une expérience de pensée. Imaginons que Galilée revient nous voir et lise votre livre. Qu'est-ce qu'il vous dirait?
Il dit, vous avez très bien résumé toutes les conversations que j'ai eues avec l'ambassadeur lorsque j'étais pris à Rome à attendre la décision du procès. C'est avec lui qu'il parle de sa fille et qu'il raconte cette anecdote que sa fille dit qu'il met trop d'énergie à vouloir être célèbre. Mais Galilée voulait, il lui dit lui-même, il voulait être célèbre de son vivant. Il dit, je veux pas mourir pour que mon livre me donne une célébrité posthume.
Merci Yves Ingrat, je pense qu'en effet Galilée dirait ce que vous venez de dire. Je recommande très vivement la lecture de votre livre que vous avez écrit avec William Shee. Il s'intitule L'ambassadeur de Galilée. Il vient de paraître aux éditions Les Belles Lettres. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Ludovic Auger et à la réalisation Luc Jean Reynaud.